Vous êtes sur RTL.
Sillonne les routes américaines. Et le plus incroyable, c'est que ces voitures, bardées de capteurs et de détecteurs électroniques, en tout genre, hein, ne sont plus en phase de test. Bonjour Guillaume de Vauchel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'innovation de l'équipementier Valeo. Vous nous confirmez que ça y est, en tout cas en Arizona, dans la région de Phoenix et dans quelques villes américaines, on peut commander une voiture autonome pour réaliser ses déplacements du quotidien.
Tout à fait, ça paraît presque banal aujourd'hui. Ouais. Le taxi que vous commandez est soit conduit par une personne physique, soit un taxi autonome. C'est une expérience que Valeo connaît bien parce qu'on fournit des capteurs. Et ce type d'expérience se multiplie dans le monde entier. Alors il faut dire, pour être totalement honnête, que Phoenix est plus facile que d'autres zones. C'est pas comme ce matin à Paris où il gèle un petit peu. Phoenix est plus rare, les roues sont droites, il n'y a pas beaucoup de piétons, etc. Mais c'est une très belle expérience.
C'est une première mondiale, ce service commercial,
C'est une première mondiale, mais il existe plein d'autres sujet, et notamment pour le transport de biens. Cette fameuse livraison du dernier kilomètre, à titre d'exemple, on va aller au montrer à Las Vegas un dossier qu'on a avec Meituan, qui est un grand chinois, qui entend livrer 28 millions de repas par jour avec un petit droïde autonome. 28 millions de repas par jour, ça fait 100 000 véhicules sur les routes en Chine très prochainement.
C'est pour quand ça?
C'est pour maintenant, on l'a présenté, donc si on le présente au grand public...
Et c'est votre matériel qui est utilisé à bord de ces voitures?
Absolument, c'est une technologie française, à la fois pour la motorisation du droïde, et à la fois donc, pour tous les systèmes de perception, les yeux et les oreilles du véhicule. Alors là aussi, attention, c'est un véhicule qui roule à 12 km/h, mais dans un centre urbain très très dense, et qui va vous livrer votre bol de nouilles, votre pizza, votre bol de riz, etc.
Donc là, vous venez de nous donner deux exemples qui sont très intéressants. Les grandes routes de l'Arizona où il est assez facile aujourd'hui de se déplacer et au contraire, des cités où il y a beaucoup de monde et où on peut livrer aujourd'hui des plateaux repas.
Oui, ce sont des cas d'usage là où il y a le véhicule autonome a le plus de valeur, où on cite les grandes autoroutes américaines très longues, où en fait il est très difficile de ne pas s'endormir, et là le véhicule autonome apporte un vrai plus de sécurité.
Je reviens tout petit peu en Arizona, environ 1500 personnes, donc des clients, utilisent ce service dans la région de Phoenix. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser ou c'est encore un panel qu'il faut intégrer à ces voitures?
Non, c'est un service ouvert au public.
Avec une application qu'on monte sur son téléphone, hop, et on monte dans la voiture.
Oui, comme n'importe quelle application.
Je crois que la flotte de ces véhicules se compose de 600 véhicules. Quelles sont les spécificités techniques d'une voiture comme ça qui aujourd'hui prend en charge, parfois, sans driver, sans conducteur, une vraie clientèle?
Alors tout d'abord, il faut remplacer l'homme par des yeux et des oreilles électroniques, des capteurs. Donc techniquement, il y a trois natures de capteurs différentes. Il y a le scanner LIDAR qui reconstruit à 360 degrés un environnement. Ensuite, il y a des caméras qui vont interpréter les objets. Donc c'est de la classification d'objets. Par exemple, un piéton, on en est à comprendre l'intention du piéton. Le piéton qui est sur le trottoir, va-t-il traverser ou pas? Donc ça commence à être très fin. Et ensuite des radars. Donc les radars définissent les vitesses différentielles. Et donc à partir de ces informations, on construit une image qu'on appelle riche, où on a détecté tous les objets intéressants, on les a classés, et puis on connaît leur vitesse relative par rapport à votre véhicule.
Et tout ça se fait en temps réel?
Ça se fait plus qu'en temps réel, puisqu'on va décider entre 20 et 30 fois par seconde de la suite à donner. Donc pour le véhicule autonome, 3 secondes, c'est 100 décisions.
Nos confrères du journal Les Échos qui ont consacré à l'expérience de Phoenix, enfin c'est plus une expérience puisque c'est une réalité, un reportage passionnant, explique a priori pour l'instant aucun accident n'a été imputé à ces taxis autonomes dans leur responsabilité. Est-ce que vous nous le confirmez?
Alors ce qu'on vise, c'est pas le zéro accident, parce que ça c'est pas possible, c'est moins d'un accident notable par milliard de kilomètres.
Alors c'est par milliard de kilomètres.
C'est à la fois extraordinaire par rapport à ce que c'est faire un homme, mais attention, on a roulé 600 milliards de kilomètres sur les routes françaises l'année dernière, ça veut dire c'est pas zéro accident. Donc on peut pas avoir la promesse du zéro accident, mais c'est beaucoup mieux que ce que peut faire un
homme. Mais les accidents qui auraient été relevés sont en fait le fait d'autres véhicules, c'est-à-dire que ça n'implique pas, je dirais, la voiture autonome en tant que telle. Alors, en tout cas, dans la région de Phoenix, semble-t-il.
Voilà, un accident, ce n'est pas forcément une erreur de la voiture autonome, mais c'est aussi la compréhension du contexte. Quand on conduit en France ou dans Paris, on voit bien qu'on a affaire aux erreurs des autres aussi, et pas simplement à ses propres erreurs.
Est-ce qu'on aura un véhicule de ce type, un jour, dans nos grandes villes en France?
Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais surtout, ce qui est notable, c'est que le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, s'équipe progressivement de ses fonctions. Des fonctions qui paraissent totalement banales, comme le maintien en file dans une file de circulation, ou sur un périphérique, par exemple, votre voiture suit la voiture qui est devant vous, auraient été considérées il y a 10 ans comme autonomes. Et ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que la crainte qu'on avait d'avoir une difficulté à se laisser conduire par une machine s'est plus ou moins évanouie avec le temps, et que tout le monde appuie sur le bouton conduite automatique de plus en plus. Et donc, on n'attend pas un grand soir avec un véhicule 100% autonome, mais on s'habitue progressivement à des fonctions déjà sympathiques.
Alors, je rappelle que Valeo est en pointe sur tous ces sujets. On donne comme date symbolique les JO de 2024, où des navettes automatiques pourraient assurer les liaisons entre les aéroports et les sites de compétition. Est-ce que vous nous le confirmez ? Est-ce que ça vous semble être un projet qui vraiment va porter ses fruits ? Je vous vois sourire.
Oui, c'est réaliste en tout cas. Après, dans votre question, ce qui est important, c'est la date symbolique.
Oui.
C'est le symbole. On a besoin de se raccrocher à des étapes et à des symboles. Mais en fait, d'ici à 2024, un grand nombre de fonctions qui vous paraissent extraordinaires aujourd'hui vont vous paraître banales dans 4 ans parce que vous y serez habitué. Comme aujourd'hui, vous confiez les 3 secondes les plus importantes de votre vie, en cas d'accident ou de presque accident, à l'ABS et l'ESP, ça vous paraît totalement banal.
Oui.
Demain, vous appuierez sur votre bouton et le véhicule vous conduira sur le périphérique parisien.
Merci beaucoup Guillaume de Vauchal. Je rappelle que vous êtes directeur de l'innovation pour l'équipementier Valeo. Bonne journée à vous et vous nous avez déjà projeté dans le futur qui est visiblement très très proche. Bonne journée à vous.
Merci.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout savoir des coulisses de l'info. Les grosses têtes.